Bonsoir à tous. L'invité de Pluriel est Mohamed Harkoun, professeur émérite à la Sorbonne. Rappelons que vous avez consacré de nombreux ouvrages à la raison islamique, à l'humanisme arabe et à la lecture du Coran. Vous avez également publié en 2002 « De Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal » avec Joseph Maïla aux éditions Desclés de Brouwer. Pour vous interroger, Maria Lafitte de Radio-Orient, Rachid Benzine du Monde des Religions et Christian Mallard de France 3. Alors Mohamed Harkoun, vous siégez actuellement à la Commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi. Plusieurs personnalités ont réclamé une loi pour interdire le port de tout signe religieux à l'école. Je pense à Jack Lang, à François Fillon par exemple. Nicolas Sarkozy, lui, n'est pas favorable à une loi sur le voile islamique, mais il veut qu'on respecte certaines règles. Vous connaissez sa formule « Quand je rentre dans une mosquée, je retire mes chaussures. Quand une jeune femme musulmane entre à l'école, elle doit enlever son voile. » Alors, Mohamed Harkoun, quel regard portez-vous sur ce débat engagé depuis quelques mois, vous qui suivez tout cela de près, justement dans cette commission sur la laïcité? Est-ce que ce débat se déroule sereinement?
Oui, d'abord je voudrais remercier Radio-Orient, dont j'apprécie beaucoup les efforts pour atteindre le public arabophone, les publics arabophones nombreux, pas seulement en France bien sûr, mais au-delà de la France. Et cette commission de la laïcité mérite effectivement, déjà une heure, c'est très bien, mais je pense qu'il faut faire plus. Pourquoi ? Parce que il est extrêmement important d'expliquer de la façon la plus simple possible au grand public les enjeux de ce que les Français appellent la laïcité. Parce que ce terme n'est pas compris, et je dirais qu'il n'est pas compris même par les Français. Et les Français ont développé toutes sortes de représentations plus ou moins adéquates de ce que vise la pensée laïque et de ce qui s'est passé dans le parcours historique de la pensée française, de la société française, pour aboutir à quelque chose que le mot laïcité, effectivement, ne suggère pas de prime abord. Et j'insiste sur la nécessité d'atteindre les publics arabes, parce que là, alors, d'abord, il y a une traduction qui ne dit absolument rien en arabe. L'Allemagne, ça ne dit rien du tout. Et ça ne renvoie ni à quelque chose qui existerait dans l'histoire de la pensée arabe et islamique, ni à la pratique contemporaine des États de tous les pays arabes, loin de là. Et par conséquent, il y a là un gouffre qui est ouvert, dans lequel tous les acteurs sociaux se précipitent, et on développe des discours absolument inouïs, inouïs d'incohérence, inouïs d'ignorance, inouïe de représentation tout à fait folle et dangereuse au sujet de l'opposition, a priori, d'une laïcité hostile à la religion, ennemie de la religion, et d'une religion qui se trouve toujours encerclée, mal comprise par les sciences modernes, par la pensée moderne, etc. Donc ça, il faut le dire très fortement, et je remercie encore une fois la Radio-Orient d'avoir ce courage d'ouvrir ses antennes pour que nous parlions sérieusement de cette affaire.
Christian Mallard.
Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'au sein de l'opinion publique occidentale, française en particulier, l'interprétation du mot islam est souvent bafouée? Est-ce qu'il ne faut pas retenir la vraie définition?
Tout ce que je viens de dire sur la laïcité est valable pour le mot islam dans le discours arabe contemporain et dans les discours, les multiples discours islamiques contemporains. Je le dis avec force. On est en pleine confusion mentale, sémantique, intellectuelle, et c'est très grave. Et c'est très grave, car ce dont nous parlons, et là aussi il faut saluer le geste du président de la République, Jacques Chirac, qui a pensé, à mon avis tardivement, mais enfin mieux vaut tard que jamais, à instaurer en France même un débat sur la laïcité, confiée d'abord à des gens qui ont pour profession d'étudier l'histoire de la pensée en général et l'histoire de la pensée française qui n'est pas très connue par les Français eux-mêmes. Là aussi, je le répète, parce que l'enseignement qui est donné est trop formel, est trop éloigné de l'actualité, parce que l'intérêt du débat aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur nouveau qui est intervenu dans la société française et par conséquent dans la pratique politique française et dans la pensée française, dans ce que la pensée a de plus noble, de plus intellectuel, de plus exigeant du point de vue de la connaissance. Cet acteur qui est intervenu, c'est l'islam. Bien sûr, il y a d'autres immigrés venant d'autres cultures, mais l'islam est un acteur qui n'est pas seulement limité aux musulmans, il est devenu un acteur géopolitique mondial.
Vous avez parlé, Mohamed Harkoun, du président Chirac. Il y a aussi un acteur très impliqué, c'est Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur. Quelle est sa stratégie aujourd'hui? C'est lui qui a relancé l'affaire du voile en allant parler devant les personnes réunies à l'UOIF. Quelle est sa stratégie aujourd'hui?
Sa stratégie, il ne m'a pas fait des confidences. Je ne peux en juger que par ses interventions nombreuses, justement, sur cette affaire, en particulier depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Alors, premièrement, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a des avancées personnelles dans ce problème, alors que les ministres antérieurs étaient extrêmement timides, ne s'avançaient pas autant qu'il le fait lui, pour parler du problème avec une sorte d'audace intellectuelle et, bien entendu, politique. Il faut lui rendre cet hommage. Et il crée un débat lui-même par ses interventions. Or, il est très important que le débat connaisse une expansion dans la société française, que tous les acteurs soient intéressés par le débat en tant que débat, parce que les problèmes sont extrêmement confus et difficiles. Et on ne fera jamais assez pour justement pousser dans le sens du ministre de l'Intérieur, qui, par ses interventions, provoque le débat et fait réfléchir par conséquent toutes sortes de niveaux de citoyens pour aborder à la fois les positions de la laïcité qu'il est très important de réaffirmer, de réarticuler en tenant compte justement des défis qui sont des défis du point de vue de l'application des contenus de la laïcité, les défis lancés par ce que j'appellerais les expressions contemporaines de l'islam. Les expressions au pluriel. C'est très long, j'ai en tête beaucoup de choses à dire, mais si on m'en laisse le temps, c'est pourquoi je réclame plusieurs heures ensemble, comme cela. Et oui,
on va essayer.
Il faut absolument nourrir ce débat. Et la commission est créée pour cela, car nous n'allons sûrement pas fournir des solutions toutes faites, dire voilà ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. On ne va pas résoudre ce problème, parce que c'est un problème qui appartient à une longue histoire, à une histoire intellectuelle, à une histoire spirituelle. Je dis histoire spirituelle, les historiens ne s'en occupent pas beaucoup. Et une sociologie de la spiritualité, j'en parle. Dans nos sociétés contemporaines, c'est zéro, ça n'existe pas. Et ça, c'est le défaut que je dénonce depuis longtemps de ce que nous appelons et pratiquons sous le nom de sciences sociales ou de sciences de l'homme et de la société, qui laisse complètement de côté des pans entiers de l'existence humaine. Car la spiritualité est un pan, une dimension de l'existence des hommes en société et des hommes en tant qu'êtres pensant et qu'être lié à des cultures. Eh bien, allez lire des choses sur la spiritualité, surtout une spiritualité, bien sûr, qui ne se ramène pas simplement à ce qu'on connaît dans le christianisme. Car dès qu'on ouvre un champ sur la religion, c'est tout de suite le christianisme qui intervient. Les autres religions, on va en parler incidemment, comme ça, en passant. Mais ça, il faut cesser cela. Et c'est un des débats couvre la laïcité parce qu'il y a une responsabilité intellectuelle de la laïcité telle que les Français l'ont vécue jusqu'à présent vis-à-vis non pas de l'islam, mais vis-à-vis de l'interprétation et de la compréhension du sujet humain. C'est cela qui est en jeu. On nourrit le sujet humain avec des définitions laïcistes, idéologiques, combattantes de la laïcité, alors que la laïcité, c'est l'honneur de la raison humaine. Je la définis comme ça.
Maria Lafitte.
Alors précisément, pour entrer dans du concret, et notamment la question des signes religieux à l'école, en particulier le foulard, est-ce que le foulard, par rapport à ce que vous venez de dire, pose réellement un problème à la laïcité, ou est-ce que c'est la laïcité qui fait un problème du foulard? Je veux dire par là, est-ce que le problème est celui du foulard ou du sens de la laïcité en France?
Oui, alors vous venez de dire, on va revenir à des choses concrètes, et la chose concrète, c'est le foulard. C'est dérisoire. C'est absolument dérisoire. Tout ce que je viens de dire au début, c'est cela qui est important. Le foulard, c'est quelque chose de tout à fait événementiel, de conjoncturel, d'artificiel, dont se servent des acteurs sociaux, comme ils se servent de tout l'arsenal que leur offrent les traditions religieuses en général, pour jouer des rôles politiques, rôles au sens de l'acteur au théâtre. Tout le monde est en représentation théâtrale. Et le foulard sur lequel tout le monde se concentre nous éloigne et nous rend aveugles sur l'intérêt que la société doit porter dans son ensemble à des problèmes de fond. Ceci n'est pas pour enterrer la question. Je siège à la commission, depuis le début de la commission, je vous assure que la plupart de nos auditions, d'ailleurs tout le public le sait, ils écoutent les auditions, le foulard, c'est terrible. Alors que la commission, je le répète, a des ambitions bien plus grandes et de longue portée et qui concernent toutes les sociétés contemporaines sans exception. Parce que la question de l'espace public, la définition ou la redéfinition de l'espace public et de l'espace privé, la question de l'articulation ou de la séparation de ce que nous appelons le spirituel et le temporel, allez-y voir, vous voyez comment on s'exprime, le spirituel, ou la religion de la politique, l'état de l'église, etc., tout ce vocabulaire-là, que nous employons comme si c'était évident. Mais ce vocabulaire cache des enjeux d'existence humaine, de compréhension, d'intelligence de ce que nous faisons en société absolument considérable.
Christian Mallard.
Alors, professeur Harkoun, là, je vous écoute très attentivement. Lorsque un certain nombre de représentants de l'UOIF ont sifflé, il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy, lors de ses propos sur le port du voile islamique au Bourget, je crois que c'était au Bourget, ces gens-là étaient aussi en représentation théâtrale. Je reprends vos propos.
Bien entendu. Bien entendu. Et ils expriment justement leur ignorance des enjeux de la présence du ministre de l'Intérieur parmi eux. C'est un geste d'ouverture de sa part pour aller écouter, pour aller parler et pour aller faire surgir justement une autre perception de la République, une autre perception de la pensée française à l'égard des problèmes posés par la présence d'une minorité musulmane importante dans ce pays. Et aussi par la présence dans l'histoire de France de l'islam. Tout de même, il ne faut pas l'oublier, puisque la France a été présente, bon, on le sait, sous la forme coloniale, bon, on l'a entendu, mais tout de même, c'est une présence qui est inscrite dans la page d'histoire de France. Et ça n'est pas rien, tout de même. Et tout cela, cette profondeur historique de ce qui nous interroge depuis que ces problèmes ont pris cette dimension virulente, idéologiquement virulente, mais jamais jusqu'à présent intellectuellement subversive. C'est-à-dire, j'entends ici, la subversion d'une certaine compréhension militante de la laïcité d'un côté et la subversion non moins importante, urgente et nécessaire de la façon dont les musulmans pas seulement en France, mais dans la totalité du monde musulman, s'exprime au nom de l'islam.
La subversion, c'est un mot qui fait réagir Rachid Benzine.
Justement, pour continuer la subversion, Monsieur Mohamed Harkoun, j'aimerais que vous puissiez aussi nous donner votre définition de la laïcité, notamment sur son attitude critique intellectuelle. Et si je dis cela, c'est pour aussi introduire la notion du fait religieux à l'école. Comment aujourd'hui essayer d'appréhender la religion en tant que fait religieux, c'est-à-dire par l'introduction de la culture? Et est-ce que finalement toute la pensée musulmane elle-même n'est pas interrogée aujourd'hui sur la manière de concevoir l'islam?
Voilà la question vraiment à laquelle il faut s'attaquer. Et vous allez voir qu'en répondant à cette question-là, le voile, le foulard va devenir une chose dérisoire, complètement dérisoire. Et tout le papier noirci des médias et des livres sur ce sujet vont apparaître dans leur véritable dimension, c'est-à-dire très, très, très conjoncturelle, comme je l'ai dit. Alors, la définition de la laïcité, je ne m'occupe pas de la définition juridique et du rôle juridique, il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui m'intéresse, c'est la définition de la laïcité comme attitude de l'esprit humain devant deux activités essentielles. Premièrement, l'activité de connaissance. Comment connaître l'homme en société? Comment connaître l'histoire? Comment connaître le fait religieux, etc., etc., sans introduire toutes les créations de l'imaginaire social, toutes les représentations de soi, à la fois de l'individu, de la collectivité, de la communauté, ce mot communauté est terrible, et devant ce que les sociologues, les anthropologues appellent la production imaginaire de la société.
Est-ce que le terme de communauté musulmane vous dérange?
Quand
on dit qu'il y a 5 millions de musulmans en France.
Énormément. Parce que le mot communauté, tel qu'il est utilisé dans tous les discours, d'abord, il est soustrait à toutes sortes, à l'analyse critique préalable, pour savoir de quoi nous parlons. L'approche critique du concept de communauté, pour le rendre opératoire, comme disent les gens des praticiens des sciences sociales, c'est-à-dire pour qu'ils nous fassent comprendre ce que ça veut dire. Eh bien, ce mot-là est employé comme épouvantail par les uns et comme recours pour les autres pour affirmer, avancer un certain nombre de revendications, les unes légitimes, les autres moins. Et donc, c'est un mot conflictuel qui n'est pas du tout approprié pour savoir de quoi nous parlons, et surtout les dangers de l'expression communautaire vers l'expression communautariste. Et nous vivons la communauté plus comme débat communautariste et comme polémique communautariste que comme communauté. Il y a des conditions, effectivement, où la communauté peut être utilisée comme une référence positive. Mais je n'ai pas le temps, malheureusement, d'expliquer cela. Je reviens donc, quand même, je n'ai pas...
À la question de Rachid Benzine.
À la question, bien sûr, je réponds aussi à vos interventions. Donc, la position de l'esprit humain, comment connaître? Et connaître de façon objective, comme nous disons, aussi objective que possible. Ça n'est pas du scientisme, ça n'est pas du positivisme. Et surtout dans le domaine de la religion, qui est un domaine qui touche aux croyances, qui touche à ce que tous les croyants appellent la foi, le mot foi lui-même est un mot, j'allais dire, trop dangereux à employer, parce qu'il est mystificateur. Tant qu'il n'a pas été soumis à toutes les analyses nécessaires, car la foi et les expressions de la foi ont une histoire, elles ont une sociologie, elles ont une des dimensions psychologiques. Elles ont des fonctions psychologiques pour la personne et pour la collectivité, etc., etc. C'est un mot d'une richesse extraordinaire. Or, les mots riches ne doivent pas être employés à la légère. Voilà un exemple de laïcité qui refuse de s'avancer à la légère en disant « moi j'ai la foi, par exemple, mes étudiants, après mes cours, souvent viennent me dire « monsieur, est-ce que vous êtes croyant ?» Mais la croyance, le croire, tout de suite, je les renvoie de la croyance au croire, à l'infinitif. Parce que le croire est une dimension, de nouveau, anthropologique, qui existe dans toutes les cultures et toutes les formes de la pensée humaine. Et moi, ça m'intéresse d'aller voir, avant de dire je suis croyant ou je ne suis pas croyant, dans la région particulière, historiquement particulière, anthropologiquement particulière, qui est l'islam. Ou le judaïsme, ou le christianisme. Voilà comment il faut réfléchir. Ça, c'est la laïcité. Et c'est comme cela que j'enseigne à mes étudiants. Jamais mes étudiants ne détectent ma position personnelle par rapport à l'islam, dont je suis historiquement solidaire, puisque je suis né, j'ai grandi dans une société touché par l'islam, pour qui la référence à l'islam est une référence importante. Ça, c'est la laïcité. Deuxième partie de la définition de la laïcité, une fois que je connais, j'ai une connaissance, par exemple, de l'islam en tant que spécialiste, comment vais-je la communiquer à autrui? Avec quelle méthode et quelle attitude d'esprit je vais la communiquer à autrui sans le conditionner à aucun moment en surveillant chacun des mots que je vais employer pour qu'à aucun moment mon public, mes auditeurs, étudiants ou grand public, et là je parle au public, je défie le public de discerner dans tout ce que je viens de dire depuis le début, de détecter si je suis un bon croyant musulman ou si je suis athée ou si je suis ceci ou cela. Non, c'est ça la laïcité. C'est un exercice intellectuel éminent. C'est une vivacité de la pensée. Au fur et à mesure qu'elle travaille, devant un public qui partage ce travail et à qui on fait partager ce travail. Ça, c'est la laïcité. C'est énorme.
C'est une et tolérance aussi.
Mais bien entendu. Et l'écoute. Je m'arrête, je demande à mon public, posez des questions, s'il vous plaît. Je viens de prononcer un nom, il faut qu'on s'arrête pour le discuter. Je ne peux pas avancer sans qu'il y ait une plateforme commune entre vous et moi sur l'utilisation du mot foi, du mot croyance, sur l'utilisation du mot révélation dans le Coran, par exemple, si je prononce le mot révélation. Et oui, ça c'est la laïcité en acte. Et vous voyez que cette pratique englobe absolument tout le sujet humain. C'est pour cela que je vous dis, pour moi, la laïcité, le mot est trop faible, le mot est trop chargé par ce que les Français en ont fait. Politiquement. Ça, c'est très fort ce que je viens de dire. Et je le signale au public arabe, musulman, ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait continuer, il nous faut beaucoup d'heures.
Oh, justement, on a très peu de minutes avant la pause publicitaire. Maria Lafitte, une question très rapide, une réponse très rapide de M. Harkoun.
Je ne voudrais pas vous provoquer, Mohamed Harkoun, en revenant sur cette question du foulard. Néanmoins, il se trouve qu'elle occupe les débats en ce moment. Alors, sur ce thème-là, est-ce qu'une loi est compatible avec l'esprit de la laïcité?
Bien, alors là, je vais vous répondre. Parce que ça touche au problème de la gouvernance. Pas du gouvernement. De la gouvernance. Car le gouvernement, quelle que soit la majorité ou les personnalités qui occupent actuellement les responsabilités gouvernementales, se trouve devant une difficulté réelle. Parce qu'il n'y a pas de doute que le phénomène du voile, je ne dis pas le voile, eh oui, voilà la laïcité encore. Il y en a chez nous, dans la commission, qui viennent le foulard, le foulard, le foulard. Et on a fait remarquer à certains, pourquoi vous n'avez pas dit le voile? Eh bien, moi, je ne dis ni le foulard, ni le voile. Je dis le phénomène du voile. Pour souligner la complexité du signe et du symbole. il y a le signe et le symbole. Alors là, on va m'accuser, j'emploie un langage incompréhensible, etc. Évidemment, je ne parle pas comme les journalistes, je ne parle pas comme mes collègues qui écrivent des ouvrages de politologie. Je parle en penseur de la laïcité et en penseur de la religion.
L'invité de Pluriel est Mohamed Harkoun. On se retrouve dans quelques instants.
Est-il une loi ou pas ? Donc, j'expliquais que le phénomène du voile qui est complexe, comme je viens de le dire. Mais la laïcité, en tant qu'instance de réflexion pour une gouvernance à laquelle doivent se référer ceux qui gouvernent, cette instance-là dit, d'une part, il y a un certain nombre de citoyens qui introduisent des demandes auxquelles la République ne peut pas rester sourde. Il y a la liberté de conscience, la liberté de religion. Si le voile répond à l'obéissance à un commandement divin, la laïcité dit que on est libre, évidemment, de pratiquer selon la conscience et selon la foi, mais à condition de respecter les visées de la laïcité pour le vivre ensemble dans un espace de citoyenneté où il y a d'autres religions, d'autres références à d'autres formes de la foi, à d'autres rituels pour organiser ce vivre ensemble sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait même des guerres de religion, comme on les appelle. Et il faut aussi tenir compte que tous les citoyens soient informés des valeurs de la laïcité par rapport aux valeurs de la religion. La laïcité telle que je l'ai présentée tout à l'heure, cette définition est universelle. Elle concerne le fonctionnement de la raison humaine sur tous les domaines. Tandis que les croyances religieuses, elles peuvent avoir une dimension universelle, mais elles sont liées à des expressions locales, particulières, liées à une langue, liées à une sémiotique, c'est-à-dire l'ensemble des signes, la danse, la cuisine, la mode, etc., qui sont particulières à une culture. Les Indiens ne s'habillent pas de la même façon que les Chinois, que les Arabes, etc. Donc, il y a une part de particularité.
C'est pour ça qu'il
n'y
a pas...
qui peut troubler le jeu du lien social, qui doit être sauvegardé par-dessus tout. Sans empêcher, je le répète, la liberté d'agir, de penser, de pratiquer, selon les signes particuliers, les rites particuliers, les expressions particulières d'une foi et d'une croyance. Et ça, ça relève de l'explication, ça relève de l'éducation. Par conséquent, de ce côté-là, étant donné que jusqu'à présent, le système éducatif laïque tel qu'il a fonctionné en France a pratiquement expulsé tout enseignement sur, par exemple, les expressions sémiotiques d'une religion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne, je prononce un mot, là, bon, de nouveau, le public ne va pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette sémiotique que j'introduis dans la religion ? Or, c'est cela, je peux expliquer, et je le fais à mes étudiants, mais on peut le faire au lycée. Les jeunes gens du lycée doivent savoir ce que c'est que la sémiotique et la diversité des expressions sémiotiques avec les différentes cultures. Là, la question du voile va prendre une autre signification.
Vous prenez une refonte du système éducatif pour l'instant.
Et par conséquent, mais oui, c'est là que je viens de dire. J'y viens. Par conséquent, dans les conditions actuelles, faire une loi donnerait des résultats tout à fait dangereux, à mon avis, dans la mesure où la République n'a pas pris en charge l'éducation des citoyens pour un lien social enrichi par l'introduction d'un enseignement adéquat pour la gestion d'une société plurielle où il n'y a pas que le catholicisme comme référence essentielle pour les religions, il y a d'autres religions, ce qui est un enrichissement, ce qui va amener un enrichissement du catholicisme, un enrichissement de la République laïque, et ce qui va amener ultimement l'enrichissement de l'émancipation de la condition humaine. Ça va jusque-là.
Pour rebondir sur ce que...
Voilà vous... donc pourquoi il ne faut pas faire une loi, ou alors il y a une autre alternative que je vais défendre dans la commission de la laïcité, c'est de faire une loi, mais immédiatement accompagnée d'une déclaration solennelle du président de la République en France et de l'Europe, dans l'Union européenne, d'engager dès à présent un système éducatif qui aide les citoyens à ne pas se sentir brimés, à ne pas se sentir écartés parce qu'ils portent le voile ou la kippa ou ceci ou cela, et que cela prenne un sens laïque, un sens qui s'inscrive dans la construction du lien social avec une connaissance moderne de nos cultures, de nos traditions de pensée, de la manière de gérer notre privé dans l'espace public. Ça, c'est capital. Si ça se fait comme ça, moi, je suis pour la loi. Mais si on nous fait une loi qui va être inscrite et que les gendarmes vont appliquer ou la police va appliquer, et sans prendre aucune espèce de décision de fond, car il s'agit de la connaissance, il s'agit de la laïcité telle que je l'ai définie, sur le système éducatif et la manière dont nous nous adressons à des classes en France où il y a 60% des élèves dans certaines classes qui viennent de cultures différentes. Et qu'est-ce que nous leur offrons ? Les batailles de Napoléon. Je caricature, mais il y a de cela. Ah non, ça ne peut plus durer comme ça.
Mohamed Harkoun, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'il existe, alors je me méfie un peu du terme, mais est-ce qu'il existe un islam français qui pourrait apporter une réforme, je dirais, à l'islam en général? Alors évidemment, là, je manie des concepts que vous n'aimerez pas.
Eh bien, ça c'est facile à répondre. L'émission que nous sommes en train de faire est une date dans le processus d'émergence d'un islam français qui pense dans les catégories de la culture française, de la pensée française, et en même temps dans les catégories d'un islam qui, nécessairement, au contact de la pensée laïque, va s'exprimer autrement qu'il ne s'est exprimé jusqu'à présent. Ce qui y correspond absolument à l'émancipation, encore une fois, de l'esprit humain tout court, et pas seulement des musulmans qui vivent en France. Car ce qui va se passer en France, et n'oublions pas l'Union européenne, attention, hein, parce que la France, bon, peut, pourquoi pas, être exemplaire sur ce plan-là. Si on fait politiquement ce que je viens de dire, au niveau de l'éducation nationale, accompagné d'une loi qu'il faudra évidemment façonner de telle façon qu'elle intègre tout ce que j'ai dit à propos du système éducatif. Ce sera un exemple dans l'Europe. Parce que tous les pays européens, sans exception, passeront par là, seront obligés de passer par là, intellectuellement, hein, pas politiquement.
En dépit des clivages culturels.
Mais les clivages culturels en France, nous sommes en train de les bousculer.
Vous parlez des Européens.
Oui, oui.
Les Anglais sont tellement différents des Français.
Eh ben,
les Allemands aussi.
Mais il faut les bousculer. On se bouscule ici.
L'Europe n'arrive même pas à s'unir, à être une Europe unie.
Mais oui, non,
on peut y arriver.
Mais bien, absolument, j'y crois profondément. Je suis un Européen militant, convaincu pour ces raisons. Et la France se bouscule. Elle est en train de se bousculer.
Tout à fait.
C'est à son honneur. Il faut que la Grande-Bretagne bouscule ses coutumes, son communautarisme, etc., etc. Et la Hollande, avec ses pillars, ils appellent la pilarisation, la politique de pilarisation, le pilier, vous vous rendez compte, on est en plein dans le communautarisme. Il faut regarder ça, enfin, réfléchir. Il faut bousculer. Et le mot subversif, ici, est le mot clé, absolument.
Rachid Benzine.
Justement, Monsieur Mohamed Harkoun, je vais essayer de poser deux questions à la suite. Tout à l'heure, vous parliez du système éducatif et l'introduction du fait religieux à l'école. Alors, comment introduire ce fait-là? Par qui? Comment va-t-on former ces professeurs? Et comment vont se poser les problèmes entre une attitude croyante et parfois une connaissance rigoureuse qui peut venir parfois perturber, je dirais, les croyances et notamment la place du mythe et de la mythologie. Ma deuxième question est, vous réfutez le terme de réforme. Et vous lui préférez beaucoup plus la notion de la subversion. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ce terme-là, beaucoup plus qu'un autre?
Oui, oui. Excellent. Excellent, tout ceci. Oui, absolument. Oui, voilà des problèmes de fond. Et vraiment, c'est le débat enrichissant pour tous les citoyens. La première question, c'est sur l'enseignement du fait religieux. Alors là aussi, il s'est passé quelque chose en France. Après beaucoup de luttes auxquelles j'ai participé depuis les années 80, en particulier avec Philippe Joutard, qui était recteur de l'Académie de Besançon et qui a fait un colloque à Besançon, mémorable. C'était une première, justement, pour essayer de définir les conditions d'un enseignement du fait religieux en France. Alors, c'est vous dire la résistance intellectuelle et culturelle et bien entendu politique, des Français à l'idée même d'enseigner le fait religieux, même tel que l'ont défini des spécialistes.
Maintenant, Xavier Darcos, le ministre, a pris acte de ce oui. désir d'enseigner.
Oui, oui, mais il a fallu des années.
Il a fallu des années.
Oui. Il faut le souligner pour vous dire que la laïcité, ce n'est pas quelque chose de gagné d'avance. Hein. Il y a une sorte de sclérose de la laïcité quand elle est institutionnalisée et qu'elle est devenue une arme d'institutionnalisation d'un certain nombre de positions et non pas quelque chose de dynamique, constamment en devenir et de critique aussi. Donc, enseigner le fait religieux aujourd'hui, vous avez raison, parce que, là aussi, étant donné que la laïcité telle qu'elle a été appliquée jusqu'à présent en France a mis de côté tout ce qui touche l'enseignement justement des religions et du fait religieux, nous nous trouvons devant un vide. Parce que les universités, les chercheurs eux-mêmes, n'ont pas intégré le phénomène religieux de cette façon pratique, urgente. Là, on nous demande de gérer les urgences. C'est l'urgence pour que la société n'éclate pas. Et l'enseignement a besoin de temps. La recherche a besoin de temps. Et c'est un fait que nous n'avons pas les enseignants nécessaires. Si demain le ministre décide qu'on enseignera le fait religieux au lycée, on n'aura pas d'enseignants. Car c'est tout de même une spécialité. C'est un champ de la réalité. De même qu'on se spécialise en médecine, en chimie et en physique, en histoire et en linguistique, de même le champ religieux. D'ailleurs, à force d'analyser le champ religieux, le mot religieux, pour moi, il n'est pas opératoire. Il n'est déjà pas opératoire.
Parce qu'il faut parler de l'histoire, du
mais bien
contexte.
Sûr, le mot religieux n'est pas opératoire. Je le répète, justement pour ne pas effaroucher ceux qui continuent d'être effarouchés par l'idée que le loup va entrer dans la bergerie.
Les intégristes laïcs.
Et bien sûr, mais bien sûr. Je récuse le mot religieux, mais je le récuse non pas pour l'éliminer, mais parce que je fais surgir par la recherche et l'enseignement la richesse du champ religieux. Et cette richesse, on en a été privé par une décision gouvernementale. C'est pour cela que je parle d'un concept très important, sociologique, le concept d'ignorance institutionnalisée.
C'est fort.
Absolument. Mais ce concept, je l'applique à tous les pays arabes, à tous les pays musulmans, sans exception. Et je l'applique, bien sûr, à tous les pays européens qui nous chantent toujours la chanson de la modernité, alors que cette modernité a besoin de la laïcité dynamique que j'ai définie, encore une fois, au début.
Maria Lafitte.
Et cette ignorance, c'est une façon, selon vous, de sortir de ce que vous appelez la mytho-idéologie.
Eh oui, voilà encore un mot barbare qui fait que...
Il va falloir nous expliquer.
Qui fait que les lecteurs... Mais je m'arrête un moment, s'il vous plaît, à ce phénomène. Quand j'emploie le mot mytho-histoire et mytho-idéologie, pour référer à des choses que nous vivons en société, dans la vie quotidienne, qui interviennent dans notre discours quotidien, et même dans nos réflexes de percevoir l'islam de telle façon, le judaïsme de telle façon, les juifs de telle façon, les chinois, etc. Ça touche à ça. Notre culture est fondée sur des représentations enseignées à l'école. Songeons en France au manuel Mallet-Isaac, qui a régné sur des générations de Français depuis les années d'après-guerre, pratiquement presque jusqu'aux années 60. Ce manuel a eu une longévité tout à fait intéressante pour montrer le fonctionnement de la laïcité en France, telle qu'elle a été définie et imposée à l'école par la Troisième République. Or, le Mallet-Isaac est une mytho-histoire. Ça n'est pas une histoire critique qu'écrivent aujourd'hui les historiens. Le portrait de Jeanne d'Arc, le portrait de Napoléon, Louis XIV, les grands moments, les grands lieux de mémoire, comme les appelle Pierre Nora dans son grand livre sur les lieux de mémoire en France, ce sont des constructions de la Troisième République, avec la contribution des historiens payés par la République laïque. C'est ça l'ignorance institutionnalisée.
Christian Mallard.
Pour vous, l'ignorance est aujourd'hui vraiment ce que j'appellerais la mère des tragédies que le monde est en train de vivre au Proche-Orient ou dans d'autres régions du monde.
Mais c'est absolument cela. Nous nous battons contre l'islam et vous voyez là, à ce moment de notre échange, brusquement, vous posez cette question. Comme si vous preniez brusquement conscience qu'il y a là quelque chose.
Je réaffirmais.
Oui, je sais, mais pour le public aussi. Parce que j'entends toujours parler d'islamophobie. Oui, les musulmans se plaignent. L'islamophobie. L'islamophobie des Européens. Mais bon sang de bonsoir. L'islamophobie vient des musulmans eux-mêmes contre leur propre religion, l'islam. Voilà. Et je n'ai pas le temps de m'expliquer, je m'excuse.
C'est dommage.
Eh bien oui, je n'ai pas le temps de m'expliquer. Pardon aux auditeurs pour cela, mais nous reviendrons et je promets d'expliquer ceci.
Maria Lafitte.
Ben justement, je ne voudrais pas qu'on s'étale peut-être trop longtemps sur ce thème-là. Néanmoins, je voudrais revenir sur ce thème des musulmans islamophobes. On a l'impression que souvent, la critique à laquelle vous appelez se mue dans les sociétés musulmanes en rejet des origines.
Ah oui, ben là, je ne peux pas répondre à cette question. Non, pas parce que je n'ai pas de réponse. J'en ai une beaucoup trop longue pour pouvoir être développée là, à ce moment de notre échange, parce que malheureusement, nous allons nous arrêter bientôt. Et c'est une raison de plus, vous voyez, pour poursuivre ce travail ensemble grâce à Radio Orient. Je fais appel à son directeur, je fais appel aux responsables, un appel solennel pour qu'à Radio Orient, il se passe des événements constructeurs d'une nouvelle presque, je dirais, parce que j'y crois beaucoup, une nouvelle humanité.
Je vais faire presque une parenthèse. Vous allez participer à des émissions sur Radio Orient sur l'histoire de l'islam.
Oui.
Pourquoi vous avez décidé de relever ce défi? Pourquoi c'est important pour vous?
Vous voyez très bien les questions qui surgissent. Et vous voyez très bien que lorsqu'on parle sérieusement, Le foulard qui occupe tous les esprits, y compris le président de la République et le gouvernement, ils ont autre chose à penser que ça. Et je répète que c'est dérisoire par rapport aux grands problèmes auxquels il faut faire face. Eh bien, vous voyez très bien que nous avons besoin d'un débat fracassant dans toute la société.
Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous avez l'impression d'être...
Des fracassons de, comme nous le faisons ici. Pas, on ne va pas se disputer, on ne va pas se taper dessus, on ne va pas être violent. On est en train de sourire, mais on ne nous voit pas. Nous sommes joyeux ensemble, on se comprend, c'est cela.
Rachid Benzine.
Je voudrais revenir quand même sur votre notion de la subversion et notamment sur
j'ai pas répondu.
Non, mais oui, justement sur la formation des imams aujourd'hui. Quel type d'islam les musulmans de France ou la France avec le système universitaire peut proposer en sachant que entre ce que peut raconter la tradition musulmane et ce que peuvent raconter les universitaires, il y a quand même, je dirais, tout un fossé.
Eh bien là, j'ai posé hier la question à M. Alaoui, justement sur ce point-là.
De l'UOIF, Fouad Alaoui.
Oui, Fouad Alaoui, oui. Et sa réponse n'a pas satisfait parce que il n'a pas saisi les enjeux actuels, compte tenu de tout ce que nous venons de dire. Et compte tenu de la nécessité de s'engager à la fois dans la ligne de la laïcité et dans la ligne d'un système éducatif qui respecte les droits d'exister, d'intervenir, de plusieurs pensées à la fois. Il n'y aura pas d'imam capable de s'inscrire et d'inscrire leur fonction qui est importante, comme celle des rabbins et comme celle des autorités religieuses, pour inscrire cet enseignement qu'il donne dans cette perspective d'un nouvel espace de citoyenneté où la religion sera présente, mais présente d'une façon dynamique, puisqu'elle sera soumise à une dynamique de l'évolution des idées, à une dynamique de l'évolution de la gouvernance dans toutes les sociétés pour rompre avec des passés, nos passés respectifs qui, justement, n'avaient pas cet outillage dont nous disposons aujourd'hui et ces libertés dont nous disposons aujourd'hui grâce tout de même au progrès de la République laïque et de la démocratie. C'est maintenant seulement que l'esprit humain se trouve en mesure de créer cette possibilité de travailler ensemble, y compris avec les imams.
Monsieur Harkoun, pourquoi vous réfutez le mot réforme et pourquoi vous préférez le mot subvertir?
Alors, le mot réforme, islah. Islah veut dire en arabe rendre meilleur. Meilleur en se rapprochant de ce qui a été enseigné dans les temps inaugurateurs de la vérité révélée. Toute la vérité est concentrée dans ce moment où le Coran est descendu, selon la métaphore coranique, du ciel pour les hommes. Et aussi, c'est incarné dans Jésus de Nazareth, devenu Jésus-Christ, et aussi Moïse et la prophétie, etc., etc. Et que signifie ce retour à un moment inaugurateur de la vérité, de toute la vérité, et par conséquent de toutes les institutions, de toutes les valeurs éthiques, juridiques sur lesquelles vivent? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une attitude caractéristique de ce que nous appelons la connaissance mythique. Je n'ai pas le temps, il faut une émission d'une heure au moins pour la connaissance mythique. Je regrette. Et ça souligne, quand j'emploie des mots comme ça, ça n'est pas du jargon. Le pain, c'est du pain. On sait ce que c'est. Mais la connaissance mythique, c'est comme le pain quotidien. Parce que nous la pratiquons quotidiennement, comme Jourdain la prose. Mais nous ne savons pas la nommer. Et ne pas nommer une fonction de l'esprit, c'est extrêmement dangereux. Et je dénonce la responsabilité de l'école. Car voyez comment les historiens, les professeurs d'histoire dans les lycées de France et de Navarre, et ailleurs, et dans les mondes musulmans, c'est encore pire. Il n'y a même pas le mot pour le dire. Le mot, le concept de mytho-histoire et de mytho-idéologie, à ma connaissance, moi je ne l'ai jamais entendu de la bouche d'un professeur au lycée. Je peux peut-être, j'oserais peut-être étendre cette remarque à des professeurs d'université. Je ne dis pas tous, hein, parce que quand même, l'histoire des annales, c'est elle qui nous a appris, justement, à parler ce langage sur la mytho-histoire et sur la mytho-idéologie. Mais ce que l'école des annales nous a appris en France, et c'est en France que cette école a grandi, je ne pense pas que ces connaissances soient passées dans l'enseignement de l'histoire dans les lycées. Parce que si ces connaissances étaient passées, nous n'en serions pas à parler comme nous parlons aujourd'hui de ces problèmes de laïcité et de religion.
Merci Mohamed Harkoun. Effectivement, une heure, c'était très court. Pour poursuivre le débat, je renvoie à votre dernier ouvrage « De Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal », un dialogue avec Joseph Maïla, paru aux éditions Desclée de Brouwer. Signalons aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Mohamed Harkoun, que nous aurons le plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Orient pour une série d'émissions sur l'histoire de l'islam pendant toute la durée du Ramadan. Merci également à Maria Lafitte de Radio Orient, Rachid Benzine du Monde des Religions et Christian Mallard de France 3. Cette émission a été préparée par Karim Hakiki, réalisée par Leïs Bazari, rediffusion sur radioorient.com et dimanche à 19h. Bonsoir.